With the sixth pick in the 2019 NFL Draft, the New York Giants select Daniel Jones, quarterback, Duke.
Daniel Jones, c'est un choix surprise lors de l'enquête 2019. C'est 6 saisons à la barre des Giants pour une victoire en série éliminatoire. 70 touchés, 47 interceptions. Mais Danny, ce qu'on va se rappeler de toi, c'est que tu es un late game choker, un meme master, mais surtout, on va se rappeler de toi pour ton contrat à 160 millions de dollars qui nous aura ultimement coûté Saquon Barkley. Bonjour à tous et bienvenue dans le Tailgate Podcast. Comme vous pourrez remarquer, je ne suis pas accompagné aujourd'hui pour vous mettre un petit peu de contexte. Premièrement, l'épisode que vous entendrez est enregistré en ce vendredi soir. Je n'étais pas dans la région pour la semaine qui vient de se dérouler, donc il a été très difficile pour nous de se trouver une plage horaire, sachant que les podcasts sont enregistrés à mon domicile et que donc mes collègues n'avaient pas accès à l'équipement durant la semaine. Alors me voilà, je suis seul avec vous en ce vendredi et dans le but de vous fournir du contenu qui est constant et de qualité, aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé dans la NFL cette semaine. Et également pour la semaine à venir, faire un petit wrap-up niveau NCAA. Mais évidemment, je n'ai pas mon expert, M. Étienne Croteau, avec moi cette semaine, donc ce sera plutôt bref. Peut-être comme l'épisode au complet, par faute d'analyse de mes collègues habituels, peut-être que l'épisode sera un petit peu moins long. Mais je vais essayer de couvrir tous les dossiers chauds et tout ce que vous devez savoir dans le monde du football. Comme vous l'avez entendu en introduction, on va commencer avec les nouvelles. Daniel Jones n'est plus un membre des Giants de New York. On a appris cette semaine qu'il a fait la demande au management de Big Blue de le release, ce qu'ils lui ont offert et ce qu'ils ont accepté, après notamment être le safety sur l'équipe de pratique pendant les entraînements cette semaine. Donc je crois que Danny en avait assez de faire partie de l'organisation des Giants. Du point de vue d'un fan des Giants depuis plusieurs années, vous savez que mon sang est bleu depuis que j'ai assisté au catch de Odell Beckham Jr. contre les Cowboys. Je crois que c'est surtout un regard vers l'avenir. Je me demande bien ce qu'on va faire au poste de corps arrière. Maintenant, est-ce que ce sera un nouveau corps arrière qui viendra à nous lors de l'encamp 2025 de la NFL? Est-ce qu'on amènera un vétéran qui va agir comme bridge pour aller attendre Arch Manning, le prodige peut-être qui pourrait s'amener et continuer la legacy de son oncle Eli chez les Giants? Seul le futur nous le dira. Pour la fin de la saison, vous avez appris que ce sera Tommy DeVito qui sera à la barre de l'attaque des Giants. On en a parlé un petit peu la semaine dernière dans le podcast avec M. Croteau, qui est également un fan des Giants, mais je crois personnellement que c'est vraiment dans l'effort de vendre des tickets tout en perdant des matchs. Ce qu'on a besoin en ce moment pour vendre des tickets, c'est de l'aura, et qui a plus d'aura dans la NFL que Tommy DeVito? Je m'attends pas à des performances à tout casser de sa part, mais j'ai l'impression que quand même, les Giants sont en bonne posture pour être un petit peu plus compétitifs de ce qu'on a vu depuis le début de la saison avec Daniel Jones. Donc j'ai très hâte de voir Tommy revenir à la barre de mon équipe favorite pour cette semaine et le reste de la saison. Les gars, dans la NFL également, on a eu plusieurs news. Un des avantages de record le podcast le vendredi, c'est que j'ai plus d'informations pour vous sur qui est in, qui est out cette semaine dans les match-ups à venir. On a deux pièces importantes qui seront là sur les lignes de côté pour les Niners cette semaine contre les Packers, donc Brock Purdy et Nick Bosa. On va en parler un petit peu plus tard lorsqu'on va discuter des match-ups à venir pour cette semaine, évidemment. Mais c'est deux joueurs d'impact là, pour leur équipe qui vont certainement leur manquer contre une équipe des Packers qu'on connaît comme assez solide cette saison. Donc je vous donnerai plus de détails plus tard, mais ça c'est deux grosses pertes pour cette semaine du côté de l'équipe de San Francisco. Maintenant, trois retours au jeu qu'on attend cette semaine. Mike Evans sera de retour du côté des Bucks. Leur attaque qui n'a pas nécessairement mal fait en son absence. Par contre, on connaît son big play threat. C'est un gars qui score beaucoup de touchés. Et puis, on sait à quel point Baker Mayfield adore cibler son receveur favori, Mike Evans. Donc, ils affronteront les Giants au MetLife, justement, à 13h ce dimanche. Et je m'attends à une grosse performance du vieux Mike, évidemment, si vous l'avez dans vos fantasy teams. Il doit être, selon moi, sur vos alignements. Je n'ai pas l'impression qu'il sera rouillé. Mike Evans, ça fait des années qu'on se demande à chaque saison s'il va être rouillé. Dû à son âge, je crois pas que c'est une blessure de la sorte qui va l'arrêter. Je m'attends à une grosse performance de Mike Evans contre mes Giants en fin de semaine qui arrive. Un autre tour, peut-être un petit peu moins important, considérant que l'attaque des Lions est dominante cette année. Sam Laporta sera de retour pour les Lions de Détroit en fin de semaine. On a connu des hauts et des bas à son niveau depuis le début de la saison, autant en fantasy que de son implication lorsqu'il est temps de gagner des matchs chez les Lions. Bien évidemment, comme j'ai mentionné, sa présence n'est peut-être pas nécessaire tant que ça. On a tellement une attaque qui est bien huilée, comme j'aimerais dire, du côté des Lions. Notamment, on va revenir sur leur performance de la semaine dernière. Mais je ne crois pas que c'est le retour qui aura le plus d'impact, par contre. Pour les Fantasy Managers, personnellement, je l'ai dans quelques ligues et je vais le start cette semaine. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de l'impact. Et justement, peut-être que leurs adversaires vont sleep sur Sam cette semaine. Donc, startable dès son retour cette semaine avec les Lions pour Sam Laporta. Et puis, un joueur défensif d'impact chez les Texans qui fera son retour aussi, le gros Will Anderson Jr., un excellent joueur de ligne défensive qui, lui, a un gros impact de l'autre côté de Daniel Hunter chez les Texans, fera son retour. Donc, ce sera très apprécié à ce niveau-là. On sait que lorsqu'il est en uniforme, la défense des Texans vraiment est dominante, surtout au niveau de la ligne défensive qui peut gagner des matchs des fois à eux seuls. On va y aller directement. Comme je vous ai mentionné, les gars, j'ai pas d'analyse de mes collègues habituels. Fait que ça va rouler aujourd'hui. Par contre, j'ai remarqué beaucoup de belles choses la semaine dernière dans la NFL. Alors parlons de ça. La dernière fois qu'on s'est parlé, la semaine dernière, on attendait avec impatience un match-up de division entre les Commanders et les Eagles. Match-up qui allait notamment déterminer qui allait avoir la première place dans la NFC East. Je vous avais scandé de better le over sur ce match-up. Et puis, ça a parti un peu relax, honnêtement. J'ai un petit peu eu peur qu'encore une fois, mes propos lors du podcast vous induisent en erreur. Mais ça l'a fini un peu plus en beauté. Jaden Daniels, qui n'a pas été capable, encore une fois, de faire ses performances par la passe qu'on l'a vu en début de saison. On sait que les Eagles ont une très bonne défense, des très bons jeunes joueurs, Cooper DeJean qui a un impact, et le nouvel arrivage au poste de secondaire que j'aime beaucoup dans cette défense-là, qui est Zach Bond, avec 8 plaqués et 8 assistances au plaqué. Donc, si vous avez un gars en défense à regarder, les Eagles, une très belle trouvaille de leur côté cette année. Donc lui, il a eu un gros impact. Du côté des Commanders, on note le retour de Brian Robinson la semaine dernière. Il a une game typique à la Brian Robinson avec 63 verges au sol et un TD. Mais ce que j'aimerais remarquer, que vous remarquez plutôt dans la performance des Commanders la semaine dernière, c'est la contribution par la passe de Austin Eckler avec 8 réceptions pour 89 verges. C'est très difficile en fantasy de starter en flex un backup running back. Et j'ai tendance à dire que Austin Eckler, il me tente des fois. Je ne l'ai pas dans beaucoup de ligues, mais j'ai l'impression qu'il, même comme deuxième running back, il est un borderline flex play pour les semaines à venir. Là, évidemment, que notre deuxième receveur chez les Commanders, Zach Ertz, a réceptionné 47 pour 47 verges. Donc, on sait que les throws étaient plutôt underneath du côté des Commanders toute la soirée. Évidemment, ça favorise beaucoup l'utilisation d'un running back comme Austin Eckler, qui est bon pour le jeu par la passe. Mais gardez son nom en tête et peut-être que si vous êtes vraiment dans le pétrin à cette position-là, il pourrait vous sortir une grosse semaine quand vous en avez le plus besoin. Parlant de running back, on va chez les Eagles. Saquon Barkley encore avec une performance du tonnerre. Presque 200 scrimmage yards encore, avec 26 carries, 146 verges, 2 touchés par la course, et également 2 réceptions pour 52 verges. De son côté, c'est toute qu'une saison qu'il connaît, et peut-être se rapproche-t-il de Derrick Henry pour le titre de Offensive Player of the Year. Je pense même qu'à ce moment-ci, c'est une opinion personnelle, mais je vois pas beaucoup qu'est-ce qui les différencie à ce niveau-là, au niveau de leur impact, chacun pour leur équipe respective, pour la saison actuelle 2024-2025. Donc c'est un très bon match-up finalement, très bon match-up, je me ravise. Les Eagles qui ont somme toute dominé ce match-là, l'écart de points est dû au touchdown à Zach Ertz en fin de match, mais c'est vraiment les Eagles qui ont dominé dans la cité de l'amour à Philadelphie la semaine dernière, et puis qui prennent les rênes de la NFC East. Excusez-moi si vous avez des petites pauses. Comme je parle tout seul ce soir, je dois prendre quelques gorgées d'eau. Je joue au hockey plus tard ce soir, donc les gorgées de bière suivront ce fameux match. On enchaîne avec les games de 1h du dimanche. Les Raiders contre les Dolphins ne m'apparaissaient pas comme un match-up à regarder. Par contre, il y a de très bonnes performances des deux côtés. Brock Bowers qui continue d'impressionner à sa première saison dans la NFL. J'ai vraiment l'impression que c'est un trend depuis quelques saisons que des rookie tight ends ont beaucoup d'impact et notamment sont des très bons joueurs à drafter en fantasy. L'année passée, évidemment, on a vu Sam Laporta qui a fini tight end 1 et Brock Bowers qui a ce titre présentement dans la NFL. Il a couru pour 126 verges et il a eu 126 verges de réception ainsi que un touchdown dans ce match-là. J'ai des petits problèmes avec le son, vous m'excuserez. Le tight end de l'autre côté, Jonnu Smith, qui a fait également très bien dans la victoire des Dolphins sur les Raiders 34-19 avec 101 verges et 2 touchdowns. Tyreek Hill qui a également rejoint la zone début. On s'attendait à ce qu'il revienne un peu en force avec le retour de Tua, qui lui aussi joue très bien ces temps-ci. Et devant Haitian, une performance plus que respectable avec un touchdown et 73 verges au sol. Donc une victoire importante des Dolphins qui espèrent rester sur un hot streak et pouvoir être dans la discussion pour une équipe wildcard à la fin de la saison. Ensuite, la semaine dernière, j'ai également fait un statement assez important sur le revenge game de Jameis Winston contre les Saints dans le Dome en Nouvelle-Orléans. Jameis, qui de son côté a très bien fait, et puis les receveurs des Browns qui, selon moi, doivent être upgrade depuis son arrivée à la barre de l'attaque des Browns. Jerry Jeudy notamment qui a ramassé 142 verges, je crois qu'il est un solide flex play et un wide receiver 2 si vous êtes dans le caca encore à ce niveau-là. Par contre, ce qui a retenu l'attention dans ce match, c'est la performance de Taysom Hill. Trois touchés par la course avec 138 verges sur 7 carries. Il était un difference maker dans ce match-là. Et je sais que plusieurs d'entre vous, justement, qui ont certains enjeux au poste de lit rapproché dans vos fantasy, ont dû se rabattre sur Taysom Hill. Eh bien, cette décision vous aurait été très payante la semaine dernière. Il a amassé plus de 40 points en PPR. Donc, c'est vraiment une très bonne récolte pour un ailier rapproché pour les semaines à venir. On sait que la constance des points Taysom Hill en fantasy n'est pas toujours très steady, je pourrais dire. Par contre, je ne crois pas que les Saints peuvent, dans leur situation, ignorer le fait qu'il a eu autant un impact dans leur victoire de la semaine dernière. Donc, évidemment, je crois qu'il peut être starté en tight end si vous avez vraiment besoin. Évidemment, le couteau suisse, on ne l'appelle pas comme ça pour rien. Il peut faire des points comme toutes les positions de l'attaque. Corps arrière, receveur, running back, c'est un méga avantage, sachant qu'on peut le slotter en tight end dans la majorité des ligues. Donc une très grosse performance de Taysom Hill et bravo à tous ceux qui ont pris le pari de le starter cette semaine. MVS aussi, j'en ai parlé la semaine dernière, c'était mon Dog of the Week. Il a encore fait un toucher cette semaine, seulement 2 réceptions, mais 87 verges. C'est sûr que c'est un big play threat, c'est tough de se fier à ça sur un joueur de même en PPR, mais tant qu'il continue à scorer des touchdowns, laissez-le sur vos bancs, peut-être qu'il aura effectivement un petit peu plus de volume un jour. Les Colts de leur côté qui ont détruit les chances des Jets de faire les playoffs. Et ça a coûté le poste de leur directeur général, les Jets qui tombent par un point contre les Colts dans le retour de Anthony Richardson. Josh Downs est un nom qui grow on me depuis plusieurs semaines. Michael Pittman Jr. qui a été leur receveur alpha depuis quelques saisons. Un petit peu ralenti cette saison, je ne sais pas si c'est les changements de carrière qui lui ont fait un petit peu de mal, mais Josh Downs semble semaine après semaine être le receveur de choix pour que ce soit Flacco ou Anthony Richardson. Josh Downs, encore une fois comme l'an passé, pourrait être un joueur surprise à définitivement garder sur votre banc en fantasy. Du côté des Jets, on est content pour Breece Hall, notamment qui a eu une performance, qui a rebondi dans la performance des Jets avec deux touchés, dont un par la passe et un à la course. Donc ça fait du bien pour les managers de Breece Hall. Par contre, Devante Adams et Garrett Wilson encore n'atteignent pas les expectations à ce niveau-là. Je sais qu'on n'a pas le choix de les starter chaque semaine, mais là, ça devient difficile de ce côté-là, honnêtement, de savoir quoi faire avec ces deux receveurs-là. Et même dans ma position, j'aurais de la misère à vous le dire. Je crois que Devante Adams doit toujours être starté. Évidemment, Garrett Wilson aussi. Mais je crois qu'il est rendu un flex play, les gars. Pas plus qu'un flex play. Donc, également, peut-être petit fait sur les Jets. On a appris cette semaine, je ne sais pas si c'est une fausse rumeur ou des échos de vestiaire, mais les Jets préféraient move on de Aaron Rodgers à la fin de la saison. Donc, ce serait un complete turnaround pour les Jets qui, avec leur fiche actuelle, auraient également un bon choix repêchage. Est-ce qu'ils pourraient être dans le mix pour un corps arrière dans le prochain encamp? Ça pourrait devenir très intéressant avec déjà beaucoup d'équipes qui devraient être intéressées à repêcher à cette position. Donc, les Colts, eux, qui deviennent 5-6 après cette victoire importante contre les Jets dimanche. On va faire un petit tour du côté d'un match-up dans la NFC North avec les Packers qui retiennent leur souffle en fin de match. Un beauté bloqué de Caro Santos qui permet aux Packers de sortir avec la victoire à Chicago. Les gars, c'était complètement fou comme fin de match. Quel jeu des unités spéciales des Packers. Les unités spéciales, des fois, ça peut gagner des matchs à eux seuls. Eh bien, ça a été le cas dans ce match-là. Du côté des Packers, dans la victoire, on note la performance de Christian Watson, notamment, avec 4 réceptions pour un total de 150 verges, qui est énorme. Et personnellement, dans la majorité de mes ligues, il est encore comme un des top players sur les waivers. Et c'est très difficile, oui, de se faire une tête sur qui est l'alpha chez les Packers. Mais j'ai vraiment l'impression que Christian Watson, on a l'impression que quand il est en santé, il peut être le gars, non, peut-être pas le gars qui va avoir le plus de réceptions pour votre équipe, mais le total yardage, si on veut aller à chercher des points là-dessus en PPR, pour les semaines à venir, je mets sur Christian Watson. Et vous allez me dire, Jaden Reed, il a connu notamment une très bonne saison la saison dernière. Il a un petit peu ralenti ces derniers temps. Par contre, je n'éclipse pas la possibilité qu'il redevienne un joueur d'impact. Mais Christian Watson, gardez un œil là, pour ceux qui ont peut-être besoin, désespérément besoin d'un sauveur en fin de saison. Si Julian Love reste en santé et continue à lancer la balle, je pense que Christian Watson pourrait peut-être être une petite solution de dernier recours. Chez les Bears, ça fait quelques semaines que je vous parle de leur receveur. Ramadunzi qui continue à progresser dans son année recrue. DJ Moore qui a somewhat of a break-back game, avec 62 verges. On s'attend déjà à plus de lui, et toujours encore plus de lui. Mais encore une fois, avec des équipes qui ont des receveurs autant performants normalement, de haute qualité, c'est très difficile de se faire une tête et se faire un alpha. Mais j'ai vraiment l'impression que Ramadunzi pourrait vraiment avoir ce rôle peut-être dans les semaines qui vont conclure la saison actuelle. Les Lions ont pilé sur les Jaguars, les gars. Pas grand-chose à dire. Mac Jones, je l'avais somme toute vanté la semaine dernière, n'a pas bien fait dans ce match-là avec 138 verges et une interception. Et les running backs, j'en parle à toutes les semaines, mais les running backs des Jaguars, quel désastre. Par contre, à noter que Brian Thomas Jr. continue lui également sa progression pour sa saison recrue encore avec plus de 80 verges par la passe. Et chez les Lions, c'était un festival offensif. les deux running backs des Lions qui récoltent un touché, dont Montgomery avec deux. Et puis par la passe, c'est Amon-Ra St. Brown qui est vraiment dominant, autant au niveau football qu'au niveau fantasy dans les dernières semaines. Je crois qu'il est le wide receiver 1 pour les trois dernières semaines combinées au niveau de PPR fantasy. Donc c'était un très bon choix au repêchage pour ceux qui ont misé sur Amon-Ra ou St. Brown. Et Jameson Williams, qui encore une fois avec une Jameson Williams stat line, 4 réceptions, 124 verges et un touchdown. Les Lions qui sont, je crois honnêtement, les favoris pour aller au Super Bowl. Mais j'avais une discussion justement avec M. Paco qui normalement est à la barre avec moi. Et il me disait que, est-ce que le karma allait rattraper les Lions à force de démolir des équipes comme ça et de continuer à scorer des touchés et célébrer en fin de match malgré que le match est déjà hors de portée. Je crois que le futur nous le dira. Mais je pense que la NFL aimerait bien un trip to the Super Bowl pour les Lions. Donc, ça va être à monitor. Mais dans mon cœur et dans les books, les Lions, présentement, je crois qu'ils sont l'équipe à battre dans la NFL. Les Steelers, ils remportent contre les Ravens sans compter un touché. Ça a été, somme toute, difficile du côté de l'attaque des Ravens dans ce match-là. Les Steelers qui ont joué du Steelers ball. Russell Wilson qui est toujours invaincu. Pardon. Et Chris Boswell qui gagne le match à lui seul dans ce match-up de la AFC North. Les Steelers qui restent, qui s'accrochent au top de la division. Et les Ravens qui devront prouver qu'ils sont vraiment des contenders dans les prochaines semaines. Parce qu'on dirait qu'ils ont des on and off games. Et puis, j'aurais bien aimé avoir l'avis de M. Paco. Mais on dirait que, un peu comme les dernières saisons, plus la saison avance, moins ils sont convaincants. Donc, ils vont vraiment devoir bounce back cette semaine dans un match-up très intéressant dont je vous parlerai plus tard. Les Seahawks sont allés chercher une victoire importante contre les Niners la semaine dernière. Et Jackson, Smith et Jigba continuent ses très bonnes performances cette saison. Ça fait depuis son arrivée qu'on se dit, est-ce que c'est quand il va déloger Tyler Lockett? C'est quand il va déloger Tyler Lockett et devenir le alpha cette attaque-là? Le coach de Ohio State, son équipe, son alma mater dans la NCAA, a dit qu'il était un des meilleurs receveurs qu'il avait jamais coaché. Et cette saison, ça ressort. Encore une performance de plus de 100 verges pour 10 réceptions du côté de Smith et Jigba. Donc une victoire très importante pour les Seahawks qui reviennent à la même fiche que les Niners dans cette division. Et ça va être la division à surveiller jusqu'à la fin de la saison. C'est très, très serré. La lutte sera très chaude. J'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu des Falcons en fin de semaine dernière. Une défaite de 38-6 contre les Broncos à Denver. L'attaque des Falcons était en panne sèche. Kirk qui ne lance même pas pour 173 verges. Bijan qui court pour moins de 40 verges. C'était complètement catastrophique du côté des Falcons. De l'autre côté, les Broncos, Bo Nix, encore une excellente performance avec 4 touchés, 300 verges et tout le monde est impliqué à l'attaque. Cortland Sutton, que j'adore maintenant, et en plus on a Devon Velly, Lil Jordan Humphrey, un des meilleurs prénoms dans la NFL, Lil Jordan, avec un touché, 50 verges. On a Marvin Mims, le speedster, qui s'implique également avec 2 réceptions, 49 verges pour un touchdown. On a également 2 touchés par la passe à Troy Franklin et Nate Atkins. Je crois vraiment, un peu comme on a discuté de la semaine passée, que Sean Payton est en train de do Sean Payton things avec les Broncos et se regarde très bien pour leur reconstruction de leur côté. Du côté de Buffalo, nous avons prédit une victoire des Bills, comme est la coutume en saison régulière, contre les Chiefs. Eh bien, c'est le cas. Les Chiefs ne sont plus invaincus cette saison, mesdames et messieurs. On retient notamment, une course, touchée par la course de Josh Allen en fin de match, qui a pu donner la victoire aux Bills. 2 touchés de James Cook dans cette victoire, seulement 20 verges au sol. Mais ces 2 touchés ont sauvé sa performance au niveau fantasy. Et j'aime encore beaucoup James Cook en fantasy going forward. Khalil Shakir qui reste la cible de choix de Josh Allen. Encore un autre que j'aime comme un sleeper en fantasy. Et que j'apprécie comme un flex play à ce niveau-là. Du côté des Bills par contre, pour l'attaque à la passe, je suis content de voir que Curtis Samuel est un petit peu plus impliqué dans cette victoire. Il va marquer un touché. Par contre, de là à dire qu'il est startable en fantasy, non. Et puis, du côté des Chiefs, le top receiver a été Xavier Worthy. Ça fait bien. Ça faisait quelques semaines qu'on avait parlé de lui, comme est-ce qu'il peut prendre un petit peu plus de maturité dans cette attaque, être un petit peu plus impliqué. Eh bien, il a fait 161 verges et un touchdown. Il est un fringe flex play pour les semaines à venir, notamment avec l'avenue de DeAndre Hopkins qui ne joue pas en sa faveur et en votre faveur à ce niveau-là. Au niveau fantasy, et finalement, quel match nous avons eu dimanche soir entre les Bengals et les Chargers. La semaine passée, on a parlé beaucoup des Bengals. On leur avait dit que ça prenait cette victoire-là. Malheureusement, l'ont échappé en fin de quatrième quart. Les deux équipes s'échangeaient le ballon sans cesse. Pauvre Joe Burrow, qui était très bon dans la défaite, avec 350 passes, 3 touchdowns. Jamar Chase encore très, très présent dans cette attaque, mais T. Higgins qui a presque atteint la verge, les 150 verges, avec également un touchdown. Donc une bonne performance des Bengals. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est l'histoire de la saison. Leur défense leur coûte des matchs. Les Chargers qui s'en vont chercher ça en fin de match, ils ont parti le match très fort. Justin Herbert qui a été très bon au début du match, notamment jusqu'à la demi. Par contre, il a fini 17 en 36, ça s'est un peu gâché à la fin. Mais ils ont su, leur défense a su stood up en fin de match et ils sont allés chercher ce match-là. Une bonne performance de la recrue Ladd McConkie qu'on avait identifié comme sleeper en début de saison dans le podcast. Et Quentin Johnson également qui continue à trouver la zone début encore avec encore un tree cette semaine. Un joueur qui me surprend à cette attaque-là et qui est définitivement rendu startable au poste de ligne rapproché, c'est Will Disley. J'ai vraiment l'impression que Justin Herbert aime beaucoup Will Disley. Il a un correct taux de target par match pour un tight end. Ça le rend startable. Et il est visé dans la zone début avec encore un tree cette semaine. Donc Will Disley, si je serais confortable de le starter dans une attaque qui prend évidemment beaucoup de vent dans les voiles, plus la saison avance, évidemment très bien coaché. Et Justin Herbert qui joue du très bon football de son côté. Donc Will Disley, je l'aime bien. Ladd McConkie, définitivement startable. Et Quentin Johnson, je dirais un flex play parce que n'importe quelle semaine, il peut sortir sans verge de TD par sa capacité actuelle que l'on voit représenter lors des matchs des Chargers. Finalement, lundi, on avait la bataille du Texas. Les Texans qui ont pilé sur les Cowboys. À noter la performance de 3 de show sur le Joe Mixon qui connaît toute une saison en fantasy. Quand on avait fait nos What mid-season ranking, je le redrafté dans le top 5 et je crois qu'il parle, il parle dans le même sens. Son jeu parle dans le même sens présentement. Joe Mixon connaît une très bonne saison et 3 de qui est définitivement un des meilleurs running backs en fantasy dû à son implication. Retour de Nico Collins aussi à noter. Il a eu 4 réceptions pour 54 verges, mais c'est définitivement le jeu au sol des Texans qui a retenu l'attention dans ce match-là. Les gars, on passe à la NCA. Je vous ai mentionné que mon ami, M. Cross, n'est pas là cette semaine. Donc, je vais faire un petit recap, très très bref, de ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais on vous a parlé du playoff picture la semaine dernière. On avait BYU qui était ranked comme 4, dû à leur bonne performance de la saison. Ils affrontaient l'Université de Kansas en fin de semaine dernière, qui n'est pas une mauvaise école. Plusieurs les voyaient même comme gagner leur conference. Ou finir top 4. Donc, BYU qui ont perdu contre Kansas en fin de semaine. Donc, ça va hurt leur standing certainement pour les college playoffs. BYU qui vont essayer de rebondir cette semaine contre Arizona State. Alors que Kansas, eux, s'en vont affronter Colorado avec Shedder, Travis et toute la bande. J'en profite pour vous donner un petit update sur Travis Hunter qui a déclaré aujourd'hui vouloir jouer dans la NFL à les deux positions. Comme vous le savez, présentement, au niveau collégial, il joue cornerback et wide receiver. On se posait beaucoup de questions, un peu comme tout le monde, du fait à ce que ça serait sustainable au niveau de la NFL. Et il nous a confirmé aujourd'hui à tous et à toutes qu'il avait bien l'intention d'essayer et d'aller dans ce sens-ci pour le repêchage, en vue du prochain repêchage de la NFL. Évidemment, on sait que plus tu te fais repêcher haut dans la NFL, plus le signing bonus est élevé. C'est pas un mauvais move marketing de sa part de se vendre comme un joueur two-way, sachant que ça peut augmenter son stock et du fait même augmenter la valeur de son bonus à la signature pour son contrat recrue. Personnellement, j'ai bien de la misère à croire qu'il serait capable de jouer presque l'entièreté des snaps d'un match, mais définitivement un joueur avec énormément de talent, peut-être un des plus talentueux des dernières années que nous avons vues. Donc, pour l'instant, le dernier update, c'est que Travis Hunter va s'essayer comme corner et comme receveur dans la NFL. Pour les bons match-ups qu'on regarde en fin de semaine au niveau du college football, j'en ai un en particulier que je vous cible aujourd'hui. Indiana, dont vous avez parlé, qui était invaincu depuis le début de la saison, c'est toujours le cas. Ils sont rank 5e au pays, s'en vont à Ohio State, présentement rank numéro 2. Donc, ce sera tout un match à midi ce samedi. Et très intéressant à voir si Indiana pourront causer l'upset et rester invaincu contre les puissants Buckeyes d'Ohio State cette saison. Et sinon, si on regarde ailleurs un petit peu dans la NCAA, on a des bons match-ups, notamment Ole Miss qui vont affronter les Gators de la Floride, les Gators décevants cette saison, et Penn State qui va jouer à Minnesota de leur côté, donc c'est les match-ups que j'highlight pour vous, pour en fin de semaine, pour ceux qui veulent écouter du football de samedi. On enchaîne directement avec la semaine à venir dans la NFL, les gars, et... Encore une fois, je record vendredi, alors ça me permet de revenir sur le... Je ne sais pas comment qualifier le match d'hier, parce que personnellement, je l'ai trouvé très intéressant. Notamment, il y avait un putain de snowstorm qui est arrivé en deuxième demi. Les Steelers étaient bien en blanc, c'était même tough de voir les joueurs à TV. Une chance qu'il y ait un peu de jaune. Mais Jameis Winston, qui a pris les Browns par la main et qui les a amenés vers la victoire... On a vu son toucher en quatrième essai en fin de match, toute qu'une preuve de caractère. Nick Chubb qui rejoint également deux fois la zone des buts. Et les receveurs, Jerry Jeudy, encore une fois, avec 85 verges. Donc sur la même ligne d'idée que tantôt, upgrade de Browns wide receiver par contre. Et Russell Wilson qui a un peu plus de misère dans ce match-là versus les Browns. Je crois pas qu'on va blâmer ça sur la température. Honnêtement, je crois juste qu'il était dû pour un down game. Et comme on sait, et comme on mentionne souvent sur le podcast, anything can happen dans un match-up de division. Et les Browns hier à la maison, dans la snowstorm, qui sortent victorieux 24-19 contre les Steelers. Une victoire qui va faire beaucoup de bien aux fans des Browns et à l'organisation des Browns School. Imaginez si Jameis Winston avait été leur carrière depuis le début de la saison. Je crois que les Browns auraient au moins 5 ou 6 victoires facilement parce qu'on a vu leur ligne défensive hier se rendre à Russell Wilson absolument sur presque toutes les drives. On a causé un fumble à un certain point. Miles Garrett a rappelé à TJ Watt qu'il veut être le Defensive Player of the Year cette saison. Il a prouvé encore sa dominance. TJ Watt qui a un peu ralenti et même hier n'a pas été capable de gagner le match à lui seul comme il l'a fait dans le passé. Donc les Steelers qui vont devoir rebondir la semaine prochaine. Pour les match-ups que j'highlight pour cette semaine à vous regarder, je vais y aller. J'ai pas le choix de passer sur les Cowboys contre les Commanders, match-up de division, mais les Commanders vont se faire beaucoup de plaisir contre les Cowboys en fin de semaine. Si vous avez des joueurs des Commanders, je les upgraderai dans toutes les ligues, plus particulièrement au poste de running back, donc Brian Robinson Jr. et même Eckler. Ça suit avec ce que j'ai dit en début de podcast. Je pense que Eckler pourrait même être un flex play dans ce match-up-là. Après ça, on a les Lions qui vont affronter les Colts. Les Lions qui vont, somme toute, écraser peut-être l'espoir que les Colts ont encore. Je pense que c'est Lions all the way. Les Chiefs vont piler sur les Panthers ensuite en Caroline et ça sera même pas drôle. On a un match-up de division dans la NFC North avec les Vikings qui vont affronter les Bears. Je crois que les Bears peuvent causer la surprise en fin de semaine. Je ne suis pas très confiant à ce niveau-là par contre, mais je pense que de la façon qu'on a perdu la semaine dernière, on a définitivement besoin d'une victoire pour le moral et je pense que les joueurs des Bears arriveront définitivement avec le couteau entre les dents contre leurs rivaux de division cette semaine. Ensuite, je vous ai parlé un petit peu du match-up des Giants qui reçoivent les Bucks en fin de semaine. Premier match de Tommy DeVito cette saison, retour de Mike Evans. Je pense que les Bucks et leur attaque par la passe vont avoir un gros match dimanche. Donc, Bucks Moneyline de mon côté. Par contre, les match-ups très intéressants là, s'en viennent vraiment plus en fin de journée et lundi. Les Cards qui vont affronter les Seahawks, les Cards qui sont présentement favoris par un point, j'ai peine à dire qui je mets comme gagnant dans ce match-là. Évidemment, le match va être joué à Seattle et je vais mettre les Seahawks Moneyline de mon côté. Je pense qu'à la maison, dans un duel autant important, le 12-man va faire la différence. Kaleux n'entendra rien, déjà qu'il a une putain de touffe sur la tête avec tout le bruit qu'ils vont faire. Seahawks Moneyline, les gars. Et je vous ai parlé également du match-up des Packers contre les Niners. Les Packers qui sont favoris par 5,5 points contre les Niners qui seront sans Brock Purdy et Nick Bosa. La défense des Packers qui est une défense qui crée beaucoup de revirements cette saison. Et là, on aura le backup carrière des Niners qui va venir dans la mêlée. Upgrade Christian McCaffrey everywhere. Mais je pense que les Packers à la maison, à Lambeau, vont aller chercher ce match contre les Niners. D'un autre côté, en Sunday night, on a les Eagles qui s'amènent à LA et puis qui vont affronter les Rams. Les Rams ne sont pas favoris, mais give me Moneyline Rams. J'ai l'impression que Matthew Stafford va avoir envie d'en planter une à la maison et que les Eagles vont ralentir un peu et que Saquon va avoir de la difficulté à pénétrer la grosse ligne défensive des Rams. Give me the Rams money line en prime time, les gars. Et ensuite, je pense que c'est le match-up que j'attends le plus personnellement cette semaine, la bataille des Arba en prime time, à LA également, les Chargers qui vont recevoir les Ravens. Les Ravens qui ont le goût de gagner, les Chargers qui veulent continuer sur leur bonne lancée et prove everybody wrong this season. Give me the Chargers money line. Bang! Les gars, c'est comme ça que ça s'enligne pour cette semaine. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à envoyer des commentaires sur le compte Instagram. Et j'en profite pour justement passer à vos questions de la semaine. On a trois questions cette semaine. La première question me demande de m'improviser en Roger Goodell et d'annoncer le premier pick dans le prochain encamp de la NFL. Donc voici. With the first pick in the 2025 NFL Draft, the Las Vegas Raiders select Shedeur Sanders. Et oui, les gars, les Raiders, on n'attend pas à ce qu'il ait le premier choix présentement au draft de l'année prochaine, mais les Raiders vont trade up avec les Jags pour avoir le premier choix overall parce que les Jags n'ont rien à foutre d'un corps arrière présentement. Ils vont prendre Shedeur Sanders, ils vont engager son père comme coach. Ils ont un coach que je considère comme intérim présentement avec Antonio Pierce qui fait pas grand-chose de bien là-bas. On était définitivement vendeur au trade deadline cette saison. Alors, Shedeur Sanders s'en va devenir le visage des Raiders à Las Vegas, les gars, et possiblement prime time à la barre de l'équipe. Donc, merci pour cette belle question et j'espère que je te surprends pas trop avec mon choix, Monsieur Lacquer. Ensuite, une question de nos collaborateurs habituels, Monsieur Simard. Pourquoi Fields a remplacé Ross dans une drive cruciale à 4 minutes de la fin hier? Il était à froid. Personnellement, mon opinion de quelqu'un qui n'est pas un expert, je te dirais que je crois que la température a été un facteur à ce niveau-là. Je pense pas que c'était le temps d'essayer la longue balle avec 4 minutes à faire. Justement, on avait du temps pour monter le ballon. Justin Fields, ce qui est tough par rapport à Russell Wilson, c'est qu'il peut aussi take off et il est plus difficile à scheme against dû à sa vitesse. On l'a vu notamment au troisième quart utiliser ses jambes lorsqu'il est venu pour quelques snaps. Je pense seulement qu'avec, selon les circonstances et la température, Justin Fields amenait plus de versatilité pour le OC des Steelers. Et puis, était un peu plus imprévisible dans une période où on veut absolument déjouer l'adversaire autant sur le terrain que mentalement. Donc voilà, je crois que c'est mon analyse. Par contre, tout comme toi, je trouve ça très bizarre. Et personnellement, j'aurais laissé Ross dans le match, connaissant ses dernières semaines, à la barre des Steelers. Et finalement, une très bonne question, plutôt loufoque, mais que j'adore. Donc, si je vais être invité à un party chez un joueur de la NFL, chez qui aimeriez-vous être invité? Alors, dû à mon âge qui est maintenant augmente rapidement et mon désir de ne plus être hangover que le colis de dog le lendemain d'un party, je vais pour Tua Tagovailoa, chez Tua, se boire un petit whisky, il va être fatigué, il mettra pas le beat trop fort pour avoir le mal à la tête, puis on va aller se coucher. Ben non, c'est pas vrai, pantoute, esti. Je m'en vais brosser chez Sterling Shepard. Pour ceux qui se rappellent pas, Sterling Shepard, lors de sa tenure avec les Giants, faisait partie du famous yacht pic. Donc les receveurs des Giants avaient tous pris une photo sur un yacht durant le bye week. Et depuis ce moment-là, c'est la franchise au complet des Giants qui a été complètement ruinée. Alors je me dis que tant qu'à faire le party avec un gars de la NFL, esti, autant bien ruiner ma vie, Chris. J'ai peut-être un petit peu de frustration à évacuer avec la situation actuelle de mon équipe. Et je m'en excuse. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez bien aimé l'épisode d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous serons de retour avec plus de membres autour du micro. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine dans la NFL.